Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire.
Et oui Laetitia, et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Janet Lavin, une jeune femme qui a toujours rêvé d'indépendance et de liberté. Des mots qui, loin de sonner comme une évidence, sont devenus pour elle l'objet d'un combat. En effet, Janet est issue d'une famille très religieuse et aux idées très arrêtées quant à la place de la femme dans la société. Son papa est pasteur. Et Janet comprend très tôt qu'elle va devoir briser ses chaînes, seule, pour gagner cette liberté tant désirée. Et de petits boulots en interrogation, d'expériences douloureuses, en prise de conscience presque existentielle, c'est finalement la rencontre avec la musique qui lui sauve la vie. Ces mots, M-A-U-X, elle les traduit en mots, M-O-T-S. Et en chanson, bien sûr. Son premier album est en préparation et nous avions donc à cœur de la recevoir aujourd'hui dans Femmes en Lumière.
Bonjour Janet.
Bonjour.
On dit Janet ou Janet?
On peut dire Janet.
Oh Janet. Yeah, Janet, ça sonne trop bien, c'est la classe Janet.
C'est badass.
Alors en tout cas, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Oui, bien sûr. Donc du coup, je suis Janet Lavin. C'est mon nom d'artiste et du coup, ça fait bientôt un an et demi que je fais de la musique. Pour vous parler un peu de mon univers, donc ça va être du rock alternatif avec une dimension expérimentale basée sur des chants anciens et spirituels. Et donc du coup, nous, notre univers, donc il y a de la guitare et synthé. Et on a aussi une expérience immersive, c'est le cœur de notre projet, avec des visuels projetés pour imager les textes et l'instrumental.
Alors pourquoi tu dis notre ? Dis-moi, tu n'es pas toute seule dans l'aventure ?
Non, je ne suis pas toute seule. je suis accompagnée de Ludovic Malville qui compose et qui joue extrêmement bien de la guitare, du synthé, du piano, il est trop fort. Il y a Mathias Iniger qui lui est artiste designer et donc interactive artist designer pardon, et donc lui crée des visuels qui va projeter et créer l'expérience immersive. Et je suis aussi accompagnée de Mathieu Clergeau qui lui mixe, a masterisé Le jour se lève et a fait des arrangements qui sont assez ouf et donc du coup et aussi de LPE, cet organisme qui m'accompagne.
Oh, qui donc beaucoup super équipe.
Ouais, voilà.
On comprend pourquoi tu dis notre.
Super équipe. Ouais.
Et alors, donc, Janet, comme le disait Myriam dans l'introduction, tu as fait le choix de quitter ta famille à 18 ans.
C'est ça.
Tu pars seule pour t'installer à Cannes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix?
Alors, pas mal de choses.
Alors déjà, à la base, t'es originaire de
Grasse.
De Grasse, ouais, hein, c'est ça, dans le sud.
Dans
voilà.
Le sud, au soleil.
On a trop de la chance. Ok. Et aujourd'hui, tu as 27 ans.
C'est ça.
Ok.
Ouais, c'est ça, 27 ans. Donc, ouais, ça fait pas mal de temps. Mais oui, donc du coup, j'ai grandi dans le sud de la France. Et en fait, à 18 ans, pour moi, il était important de partir pour être indépendante. C'est vrai, comme vous avez pu l'évoquer, j'ai grandi dans un cadre extrêmement strict, plutôt religieux également. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis pas forcément retrouvée là-dedans. J'avais l'impression d'être un peu trop différente, de pas forcément être acceptée. Et moi, je rêvais de vivre de grandes choses. Je savais pas encore quoi, mais voilà, c'était l'objectif.
Alors quand tu disais que t'étais pas à ta place, c'est-à-dire
J'étais pas forcément. Moi, j'ai toujours été pour la liberté, pour l'indépendance. Je me sentais pas.
Quelle liberté t'étais interdite finalement dans?
Sans vouloir être excessive, mais toutes. C'était plutôt voilà très strict. Le cadre dans lequel je devais évoluer n'était pas forcément celui dont j'avais envie. C'était avoir un petit boulot, se marier, avoir des enfants et avoir une vie plutôt cadrée, stable, aller à l'église et voilà, avec des principes où l'indépendance, gagner de l'argent, être plutôt la femme indépendante d'une famille n'était pas forcément ce qui était recommandé.
La femme soumise à son mari.
Voilà, plutôt. C'est ça. C'est exactement ça. Et je pense que si ces personnes écoutent, ils vont se dire ah non et tout. Mais si finalement il y a vraiment ce truc de la femme doit être là pour sa famille, doit être un soutien pour son mari, et finalement la carrière n'est pas forcément mise en avant. Moi par exemple, on y reviendra peut-être plus tard, mais quand je suis montée sur Paris, j'ai repris mes études et j'ai eu un MBA en management, ce qui moi était assez incroyable.
Oui, on va en parler après.
Mais voilà, du coup, l'écart, c'était mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras des enfants et un mari?
On arrête les études et.
Ça sert à quoi de courir après en fait, faut arrêter de rêver sa vie. La vie, c'est pas ça, et la vie, c'est cadré.
Et alors, du coup, dans quel état d'esprit tu es quand tu pars? Parce que raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'elle dit ta famille quand tu prends cette décision de partir à 18 ans? Parce que c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, t'es tout juste majeur. On sait que 18 ans, on est pas encore un bébé, mais presque, quoi. On est encore très jeune. Soulagée ou au contraire morte de peur? Raconte-nous un peu tout ça.
Alors moi, je suis partie vraiment à 18 ans pile. J'ai toujours un peu dit que le jour où j'aurai 18 ans, je partirai. En vrai, j'étais assez terrifiée, mais j'avais un petit peu trop d'ego pour le montrer, et j'avais besoin de prouver que j'étais forte et que je croyais en ce que je voulais, parce que de toute façon personne n'y croyait vraiment. Je suis partie en disant quelque chose d'assez fort, en disant je préfère partir au risque d'aller en enfer plutôt que de rester être malheureuse toute ma vie. Et en fait, je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Malheureusement, je suis moi. Et si la conséquence, c'est d'aller en enfer par la suite,
C'était ces mots que tu recevais?
C'était pas forcément des mots si précis, mais c'est pas frontal comme ça, mais c'était le cadre qui voulait ça. Moi, quand je suis partie, je suis passée pour la fille qui appartenait au monde, et donc il y a vraiment un décalage entre le monde dans lequel j'ai grandi et l'extérieur du monde qui est considéré comme tu penses comme le monde, tu rêves ta vie, tu cours après l'argent, c'est le diable qui régit tout ça, et c'est excessif et c'est ridicule de courir après tout ça. Et donc moi j'ai dit si le risque c'est ça, j'y vais. Et donc moi j'avais rencontré un garçon parce que je rêvais d'indépendance, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on a été conditionné et un peu formaté à ça. Donc je me suis dirigée vers une relation. Ça a duré un an et demi, et c'est vrai que là on est confronté un peu à tout ce sur quoi on a grandi, donc forcément la personne avec qui je me suis mise était autoritaire, m'imposait des choses, et donc ça a été un peu le combat de ma vie, défaire tout ce conditionnement là pour en arriver à
finalement une famille toxique, un petit peu peut-être une relation toxique qui continue. Et puis après tu nous en parleras plus sur
on va en parler, parce que c'est quand même un truc qui te poursuit qui t'a poursuivi, on va dire que là maintenant
les chaînes ont été brisées.
Totalement.
C'est ça aussi qui nous a beaucoup touché dans ton parcours, c'est que il y a quand même plein de choses à casser, plein de schémas à briser, et donc on le disait, c'est cet environnement très strict, très religieux. On fait une distinction entre le cocon familial, et puis il y a le monde. Et toi, tu vas être une fille du monde. C'est assez terrible. Donc t'as voulu t'émanciper de tout ça. D'où ça vient ce poids de la religion au sein de ta famille? Tu vois, quel impact tu dirais que ça a eu sur les femmes, sur ta lignée de femmes? Tu vois, je pense à ta mère, mais aussi à tes grands-mères, parce qu'alors Janet Lavin, tu nous disais, ton nom d'artiste, ça vient pas de nulle part. Tu leur rends hommage d'une certaine façon. Tu peux nous raconter ça?
Ma grand-mère s'appelle Janet, et l'autre, son nom de famille, c'est Lavin. Quel poids ça a eu? Je pense que en fait.
Donc t'as pris le prénom de l'une et le nom de famille de l'autre.
Comme ça.
Pas de jalouse.
Exactement. Je pense que en fait, je pense que la religion, en tout cas dans le cas dans lequel j'ai grandi, avec le recul, parce que malheureusement, vu que on me comprenait pas et qu'on m'a plutôt rejetée sur ce que je défendais, j'ai dû comprendre et donc du coup développer une sensibilité pour me dire ok, pourquoi je vis ça, est-ce que ils sont contre moi et ils me détestent ou en fait non, et donc on a forcément envie de comprendre des fois les choses qui nous font souffrir. Et je pense qu'en fait c'est ils ont, je pense que on a besoin d'être en sécurité avec des vérités qui sont imposées. Et quand on sort de ces vérités, ça peut mettre en insécurité. Et je pense que du coup, c'est ce dans quoi j'ai grandi. Ce qu'on me dit pas, ça fait peur. On peut pas remettre en cause, en cause les choses. On peut pas sortir du cadre parce que ça fait peur. Et donc, je pense qu'en fait, que ce soit par la religion ou autre, les femmes d'avant, des générations d'avant, elles avaient pas forcément leur mot à dire. C'était t'es une femme. Désolée du terme, mais tu fermes ta gueule et c'est comme ça parce que en fait c'est comme ça et il y a pas forcément de choses à revendiquer. Qu'est-ce que
donc ça c'est le modèle que tu as pu observer.
C'est ça et
ta maman.
Mais excuse-moi juste, c'était une communauté dans laquelle tu vivais ou pas parce que le monde qui nous entoure, avec les femmes quand même qui se libèrent, la parole des femmes qui se libèrent, c'est très dur finalement de garder ce schéma-là. Donc c'était une communauté. Vous étiez plusieurs familles ou vous étiez que vous?
Alors, du coup, exactement, on était, c'est des églises, c'est protestant, et donc du coup, moi j'ai grandi avec plein de gens, et donc oui, on était à peu près 90, ils sont un peu plus, et donc on grandit avec ces personnes-là, et c'est vrai que moi, je trouve que les femmes sont souvent là pour accompagner l'homme, s'occuper de la famille, parce que qui va s'occuper des enfants sinon, et donc c'est ironique hein, mais du coup c'est un peu ce truc là et moi j'ai pu voir des choses dans l'église où il y a une femme qui divorce et oh là là mais qu'est-ce qu'elle a, et puis elle va prendre des photos parce qu'elle a envie de reprendre confiance en elle, oh là là mais elle cherche vraiment, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait. Mais en fait non, il faut s'assumer, il faut s'imposer, il faut se connaître, il faut pas dépendre d'un homme. On peut avoir n'importe quel schéma qu'on souhaite tant qu'on est consentante.
Et comment elle... Alors du coup, tes grand-mères, elles étaient encore là ou elles sont encore là quand tu choisis de prendre leur nom? Comment elles l'ont réagi?
Il y en a une, oui. Du coup, celle qui porte le nom de famille Lavin. Ouais. Elle était touchée. Elle comprend. Elle aussi est plutôt dans la religion, mais elle comprend par ma vie et par ce que j'ai pu vivre au cours de mon enfance, adolescence, les choses. Et elle comprend que c'est un moyen aussi pour moi de m'exprimer. Elle sait qu'on n'est pas vraiment d'accord. Ça l'empêche pas de prier pour moi et c'est
bon, c'est déjà
ça. C'est plutôt sain la manière dont elle le fait parce qu'elle accepte et elle m'impose pas.
Ouais,
juste
voilà.
Pour elle, c'est sa manière de m'aimer et je pense qu'en fait les personnes avec lesquelles j'ai grandi, c'est leur manière d'aimer.
Oui. Quelle sagesse hein, faut vraiment OK. Et donc alors aujourd'hui, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec ta famille? Vous êtes en lien quand même?
Oui, ça va mieux pendant quelques temps. Du coup, on s'est un peu éloigné parce qu'ils comprenaient pas mes choix. J'ai pu faire des choix qui pour eux étaient assez
péché,
dramatiques, totalement péché. Voilà, bon. Je peux dire le mot.
Mais en tout cas, les liens se rétablissent peu à peu.
Oui, bon, c'est ça. Je pense qu'ils comprennent, ils finissent par accepter la différence.
Bon. C'est chouette. Ouais. Ok, bon, on va poursuivre cet échange. On a envie d'en savoir davantage, bien évidemment. Merci, Janet. C'est le moment de faire une première pause musicale. Alors, on va écouter quand même un premier morceau qui t'appartient. Oui. Et après, on va avoir la chance de vous entendre en live parce que Ludovic est là. Ouh, il nous fait ce cadeau. Donc, on démarre l'année hyper fort. Donc, on parlait de cet album en préparation. Donc, là, on va écouter donc Le Jour se lève.
Exactement, l'acte 1 du futur album Renaissance.
Ok, c'est parti. Thank you.
Poussière dorme mes alliances, des chants anciens battant silence. La nuit se poise sous un cœur vibrant, l'aube s'élève au mur brûlant. Danse dans l'ombre et fleur d'instant. Puisque l'écho brûle tout ce
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Janet Lavin, auteure et interprète, est notre femme en lumière du jour. Alors, Janet, tu te retrouves donc à Cannes, à l'âge de 18 ans, et puis, alors, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives là-bas?
Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'arrive dans la vie. Je suis là en mode moi jusqu'à présent tout était un peu interdit, j'avais pas le droit de parler trop à des garçons, j'avais pas le droit de boire de l'alcool, faire quoi que ce soit. Donc moi j'arrive à Cannes et en fait je fais une école de maquillage, je suis en couple avec avec un garçon avec qui j'habite et à la fin de cette année de maquillage, je décide de travailler et de commencer à mettre de l'argent de côté pour monter sur Paris. Le projet lié au maquillage s'est un peu essoufflé, j'avais envie de d'aider les personnes qui pouvaient avoir eu ben peut-être des cancers, des transformations physiques et les aider dans cet accompagnement-là. Bref, finalement ça s'est pas fait j'ai commencé à travailler et je me disais ok, il faut que je monte à Paris, il faut que je mette de l'argent. Je savais pas encore pourquoi et donc j'ai commencé à travailler. Il se trouve qu'avec ce garçon ça s'est terminé et en fait je dois retourner chez mes parents et donc là c'est un petit peu compliqué déjà en termes de bon, d'ego et en plus les situations étaient un petit peu voilà. Ouais. Donc du coup vite je trouve plein de travail. Donc je travaille la journée en vente, le soir du jeudi au dimanche je travaille en boîte de nuit. Okay. Donc le milieu de la boîte de nuit que je ne connaissais pas.
Voilà, tes parents étaient ravis.
Voilà.
Alors super, ça c'est à Paris hein.
C'est à Cannes.
Ah, c'est à Cannes. On est toujours à Cannes. OK.
Et donc du coup vite la journée, j'arrive plus à tenir, je coffre de l'argent, je travaille en boîte de nuit, là je me rends compte de ce monde.
En tant que serveuse, c'est ça ?
Ouais, bah oui. Alors je faisais tout hein, je faisais serveuse extérieur, intérieur, j'aidais au bar, enfin je faisais vraiment un peu de tout, c'était très épuisant et en fait là il se trouve que ben je rencontre un garçon qui s'y trouve et qui était pas forcément une très très bonne influence et je me rends compte que là il faut que je prenne ma vie en main. Je revois mon père et je lui dis bah ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et je lui dis voilà, là ça va pas, faut que je me sorte de cette situation. Je retourne chez mes parents. Deuxième youhou. Et donc je me dis ok, je peux pas faire ça et je décide de monter sur Paris.
Et alors comment ça se passe pour toi du coup dans cette capitale que tu ne connais pas en plus?
Bah alors waouh, parce que Paris, moi je pensais jamais réussir à monter sur Paris un jour parce que déjà rien que de penser au métro, à toute cette organisation, aux gens, enfin moi je venais du sud, je disais bonjour à tout le monde, ça a eu un petit choc et en fait il se trouve que je rencontre un garçon. Okay. Avec qui je vais rester 3 ans et demi et donc du coup finalement je vais pas vraiment profiter de Paris parce que bah cette relation va être je pense en termes de toxicité le max.
D'accord.
Puisse...
Tu as quel âge à cette époque?
J'ai 21 ans, c'est en 2018.
Mmh. 21 ouais, ans, donc de 18 ouais. ans à 21 ans, on va dire que tu es sur Grasse à peu près.
Grasse Cannes, je travaille.
Grasse Cannes, ouais. Et là, tu arrives sur Paris. Alors comment se fait-il, selon toi, que tu te retrouves de nouveau dans une relation toxique et comment tu t'en rends compte aussi, parce que c'est pas forcément simple.
Bah alors je m'en rends compte oui et non sur le coup. Ouais. Mais pourquoi je vais là-dedans, parce que j'ai grandi j'ai grandi sur des choses qui m'ont mis là-dedans, j'avais pas forcément ma place, je dénonçais des choses où les gens n'avaient pas forcément envie d'entendre, on n'avait pas envie de m'écouter. Et donc du coup, en fait, j'ai grandi sur je dérange.
Qu'est-ce que t'as dénoncé qu'on n'a pas eu envie d'écouter?
Ben du coup, quand j'étais enfant / préado, il s'est passé certaines choses que malheureusement beaucoup de femmes vivent. Quand j'en ai parlé, on m'a pas cru. On a plutôt rigolé et on n'a pas forcément agi. Et donc du coup j'ai dû.
C'est des agressions.
Exactement. Ouais. Exactement. Et donc du coup quand j'ai dénoncé ça, les personnes ne voulaient pas écouter. Et en fait j'ai un peu grandi dans ce truc de l'acte en lui-même est assez fort dans le sens où quand on vit ça, ce que ça dit, c'est pas juste voilà il s'est passé ça, c'est juste tu n'es tellement rien et tu n'existes tellement pas que je vais faire ça. Et j'en ai strictement rien à foutre de ce que tu dis ou non, parce que de toute façon, moi j'ai décidé de t'agresser, donc tu n'existes pas. Donc j'ai grandi un peu sur ce truc de je n'existe pas, et quand j'en parle, personne ne m'écoute, et on ne me croit pas. Avec le temps, j'ai dû comprendre et analyser tout ce qui s'était passé, parce que le plus dur, hormis l'acte, c'est le après, les conséquences que ça a, parce qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut, ça nous poursuit toute la vie et ça marque l'esprit. Je pense vraiment que ensuite, on est enfermé dans ce traumatisme et ce que ça dit, ce traumatisme, ben, on le revit en boucle tant qu'on n'a pas compris. Et donc, du coup, forcément, quand on grandit sur ce truc de je n'existe pas, il s'est passé ça, je n'ai aucune valeur, que ce soit physique ou mentale, je n'ai aucune importance sur Terre. Les personnes qui étaient censées me protéger, m'écouter et qui étaient très strictes n'agissent pas. Donc, en fait, en termes de valeur, d'éducation, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, du coup, ouais. Parce que quand un truc grave comme ça se passe et que moi j'ai eu l'habitude dès que je sais pas, je range pas une fourchette, on m'engueule, j'exagère là, mais du coup quand il se passe quelque chose comme ça et que je le dénonce et qu'il se passe rien, bon, et donc du coup il y a forcément ce poids aussi de la culpabilité de j'amène une information qui est trop dure pour tout le monde, personne ne pourra me sauver. Et en plus, je fais souffrir tout le monde. Donc, du coup, vite, je prends une place de parent pour des personnes qui ne sont pas capables. Mmh. Et vite, les gens me renvoient à un truc de « je ne veux pas écouter, c'est trop dur » et balancent des choses assez horribles. Oui, enfin, t'es sûr que t'avais pas envie, non mais bon, ouais, truc.
C'est pas ta faute, oui. Tu l'as pas cherché.
Oui, et puis bon, quand tu t'habilles comme ça, truc. Et puis en fait, avec le temps, j'ai analysé. Ils étaient juste pas assez forts. Ils ont fait comme ils pouvaient. C'était pas la meilleure des manières. Et heureusement que j'ai compris. Mais moi, je pense que ce qui m'a marqué, c'est que ils ont pris un peu le risque que je foute un peu ma vie en l'air, au point de me faire croire que j'étais un peu folle, plutôt que d'agir.
Et donc, du coup, avec les conséquences que ça a eu, sur tes relations, puisque là, bon, tu nous décrivais déjà passage à Cannes, il y en a déjà un ou deux, les relations elles commencent déjà à être toxiques. Et là, tu nous dis à Paris, bon, alors là, c'est le pompon du pompon.
Alors là,
c'était intéressant ce que disait Laetitia. Comment tu t'en aperçois, enfin c'est quoi qu'est-ce qui te fait partir en fait?
Ce qui a commencé, parce que c'est important de le dire aussi, c'est que ces personnes-là, je sais que c'est un peu un terme à la mode, moi ça me révolte un peu parce qu'en fait il y a quand même la perversion narcissique, c'est quand même quelque chose. Bien et sûr. Quand on le vit, c'est un terme qui est très fort et qui est très important. En fait, c'est une personne qui va analyser exactement tes pires blessures, qui va se suradapter et te donner exactement tout ce dont t'as manqué, tout ce dont t'as besoin. Il va suradapter. Au début, ça va être parfait. Puis petit à petit, il va commencer à faire des choses qui sortent un peu de ton consentement, mais tout en te commençant à te manipulant. Et en fait, ça va monter de pire en pire. Et en fait, tu te vois accepter des choses, mais tu n'es plus rien. Ouais. Et finalement, c'est exactement...
C'est le phénomène d'emprise là que tu décris.
Et finalement, c'est exactement l'image de ce que j'ai pu vivre, et c'est pour ça que c'est important de le dire, c'est que, en fait, il a représenté exactement tout ce que j'avais subi en une relation. Et donc, en fait, j'ai pas travaillé, il y avait de la violence,
Il t'interdisait de travailler?
Alors non, c'était mieux fait que ça. La conséquence était ça, mais il disait qu'il était pas capable de vivre sans moi.
C'est une vraie manipulation.
Parce que c'est ça qui fait
qu'après, tu t'oublies toi-même. Tu t'arrêtes de travailler, tu t'éloignes de tes amis, de ta famille, il est sous emprise. Du coup, il te frappe aussi. Il y a de la violence physique ou psychologique.
Mais c'était plutôt bien fait dans le sens où il était très intelligent dans ce qu'il faisait. Ça veut dire que moi, je me souviens, apparemment, c'était quelqu'un qui était militaire. À voir, parce que je pense que c'était surtout un gros mytho. Mais je sais que la nuit, des fois, il m'étranglait ou quoi. Il disait oui. Et des fois, il se passait des choses. Et en fait, ça monte petit à petit. Et c'était même pas. Je n'avais plus de place, c'est qu'en fait il est rentré dans mon cerveau, il a pris la place et je n'étais rien d'autre que ce qu'il voulait que je sois.
Ok, donc c'est quoi le
déclic?
Comment tu pars?
Le déclic, c'est je décide de reprendre mes études parce que je comprends qu'à Paris c'est comme ça que ça se passe et que lui il nourrit un peu mon idée de ouais tu verras tu seras une femme puissante qui travaillera qui sera entrepreneuse. Moi c'était le rêve de ma vie, prendre un peu la relève.
Donc d'où le MBA dont tu nous parlais
exactement.
Tout à l'heure.
Et donc du coup j'appelle un organisme qui se trouve faisait un partenariat avec une école qui apparemment avait l'air importante. Moi je connaissais pas du tout ce que c'était cadre et tout, je commençais à découvrir et en fait j'appelle cette école et j'avoue j'ai un petit peu mitonné, mais c'était pour la bonne cause. Et je leur ai dit, vous avez besoin de tant d'années d'expérience en management. J'avais regardé les termes, j'avais regardé des interviews qui parlaient un peu en mode business et tout. Ouais. Et j'ai dit, moi j'ai ça. Comment on rentre? Ils m'ont dit, ok. Et donc, du coup, j'avais 2 ans pour passer à distance. C'était pour des gens qui travaillent. J'ai réussi à le faire en 3 mois. J'ai franchement rien compris de ce que je faisais.
Mais ça t'a permis de te sauver.
Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'était bien.
Juste pour en revenir au déclic, donc t'obtiens ce MBA, quoi qu'il arrive. Et donc là, il te pose un ultimatum.
Ouais, c'est ça. En gros, du coup, j'ai ce MBA, donc du coup, je commence à travailler.
Il se passe combien de temps, excuse-moi juste?
Il se passe 4 mois entre le MBA et le premier taf que j'ai. Okay. Et donc, du coup, je postule, et là, d'un coup, j'ai une réponse, un cabinet de recrutement, et je me dis, ok, j'y vais. Au début, il fait semblant de me soutenir, et puis en fait, après, il commence à me faire culpabiliser. Je rentre le soir, il me plaque contre le mur, il me sent, il me dit, ah, tu pues le mec, t'as changé, t'es devenu vraiment la pire des merdes, la pire des personnes au monde. Et donc, il me dit, de toute façon, c'est très clair, c'est soit le travail, soit moi. Wow. Décide ce que tu veux être. Si tu veux être une sombre merde, choisis ton travail. Et je lui dis, ok. Du coup, je suis partie. Et après, il m'a pas vraiment lâchée non plus. Il m'envoyait plein de mails.
Oui, donc après, il y a du harcèlement qui se poursuit. Mais en tout cas, ce qui est important là de dire, Janet, là, c'est que t'arrives à trouver ce cran là. De partir. Donc c'est vachement important là, tu vois, tout ce que tu décris, ces phénomènes d'emprise, on a beau en parler, quand on se retrouve dans la situation, c'est jamais très évident. Toi, quel conseil tu donnerais? Tu vois, c'est quoi qui doit nous alerter, tu vois, le premier red flag là où tout de suite on devrait se dire faut pas y aller.
Du moment où on ressent quelque chose qui est pas normal, où on se dit, moi je pense que en fait on minimise le ressenti parce que on s'adapte constamment.
Donc c'est s'écouter vraiment.
Il faut s'écouter et en fait il faut surtout se dire que ça paraît insurmontable. Jamais de ma vie j'aurais cru pouvoir sortir de ça parce qu'en fait la personne crame tout ce qui existe et donc du coup on n'a plus rien et on n'est plus rien et en plus on a le sentiment que nous-mêmes on peut plus vivre toute seule parce que la personne a tout brûlé et est devenue en même temps le sauveur, donc en fait il détruit tout et en même temps il nous sauve, donc du coup une petite chose fragile. Mais en fait il faut se dire que ça paraît insurmontable mais ça l'est pas, et en fait il faut se battre et souvent on a 2 parties en nous, on a la partie où c'est dur, où on souffre, et on a la partie avec cette petite voix qui nous dit là c'est pas normal.
Tu nous parles de ténèbres et de lumière.
Exact.
En même temps, donc ça tombe bien parce que pour ce deuxième morceau qu'on va écouter, on va avoir le plaisir de vous écouter en live tous les deux. Donc c'est qu'est-ce que vous allez nous jouer?
On fait Décimer.
Allez, c'est donc parti. On est parti pour Décimer avec Ludovic Malville. Au santé.
Juste une question.
Ouais.
Est-ce que tu peux juste nous expliquer le pourquoi de cette chanson?
Ah oui, ben alors c'est pour cette relation-là et ça parle d'emprise et ben de cette relation que je dénonce.
Toxique. Ok.
Voilà.
Parfait.
Vous allez voir, c'est plutôt imagé en plus.
Alors on écoute.
Sois le fantôme de ton âme. T'as tout eu de moi. J'étais devenu ce que tu voulais que je sois. C'est passé, c'était passé. Tes hurlements silencieux, tes manigances sous-jacentes ont retourné mon âme, reconditionné toi. T'étais le maître des armées. Armée qui criera la paix quand le feu aura tout brûlé. Qui fuira la paix quand le feu aura tout brûlé. Décimer mon âme et décimer mon âme et décimer. Tu m'as prise par la main, apparemment tout irait bien. Que tu serais là, prendrais tout sur toi. Le vent et les marées ne te feront pas peur, non. Tu m'as comparé à tout ce que tu pouvais piquer, rabaisser au moindre instant passé, à rééquilibrer la paix quand le feu aura tout brûlé. Oh, dessiner mon âme, mais dessiner mon âme, dessiner. Sois l'ombre de toi-même comme un lointain souvenir. Penser sa vie récupère sans avenir. Décimer toute mon âme et décimer.
Incroyable prestation, bravo Ido, bravo Janet.
On vient d'avoir un magnifique live, vous êtes sur IDFM Radio et aujourd'hui dans l'émission Femme en Lumière, Janet Lavin, auteure, interprète, est notre femme en lumière du jour. Alors Janet, tu aimes à dire que la musique t'a sauvé la vie.
Oui.
Alors, comment est-ce que ça a commencé pour toi? Parce que là, on a vu le parcours, Cannes, Paris, ouais. MBA, leur cabinet de recrutement, rien à voir.
Rien à voir.
Ouais.
C'est vrai. Bah, du coup, c'est, en fait, en 2000, on est quoi là? En 2025?
En 2026.
En 2026,
oui, depuis 6 jours, on est en 2026.
J'ai du mal à m'y faire, c'est vrai. Autant pour moi. Mais c'est vrai, donc, du coup, fin 2023, là, il y a un peu toute ma vie qui s'arrête, une relation qui se termine, où je comprends plein de choses sur moi et où je me dis, là, il faut que je sois moi, pour genre, c'est plus possible de vivre ce genre de choses, il faut que je sois moi. J'ai rencontré du coup une de mes meilleures amies actuelles, Nina, qui est d'un grand soutien. Et en fait, je me rends compte que voilà, là, il faut que je prenne ma vie en main. Je me barre à Marseille. 3 mois, je pars à l'aventure. Pour moi, Marseille, c'était vraiment
vraiment
toute seule avec mon petit chien, Romy. Et donc, du coup, donc je pars à Marseille. Et en fait, quand je rentre sur Paris, je prends ce temps-là pour me reconstruire. Et je me dis, maintenant, il va falloir que je m'aime et que je me respecte. Donc, tant que c'est pas le cas, je continuerai. Et je bref, tous
oui,
les jours à
là,
Marseille.
Là, tu te dis, voilà, ce que je ressens a de la valeur, en fait.
Voilà.
Finalement,
et
la grande leçon,
ouais.
C'est ça.
Et c'est au-delà de ça, c'est genre les gens te traitent comme tu te perçois, donc maintenant il va falloir arrêter et voilà, avoir un peu de courage. Ouais. Donc du coup, je rentre sur Paris, j'ai aucun logement, j'ai
normal,
pas de taf non plus, et en fait là, je trouve un taf et là, j'essaye de regarder un peu ce qui se passe et je vois une coloc et je vois l'annonce et je me dis, je sais que c'est là que je vais vivre, je n'ai aucun doute.
Donc la coloc qui se trouve
ouais, à Épinay-sur-Seine.
Épinay-sur-Seine, donc pas très loin.
Dans le 95, ouais.
Exactement. Et donc du coup, j'arrive dans cette coloc, je suis prise, bon instinct, j'étais contente. Je suis prise et en fait, il se trouve que dans cette coloc, il y a un studio de musique et Charles, le propriétaire, me dit « Ah, tu fais de la musique ?» Je fais « Ah non, non, pas du tout. Moi, j'ai chanté vite fait dans ma salle de bain, mais il faut qu'il n'y ait plus personne dans l'immeuble parce que moi, je suis où ?» Et donc, et en fait, le temps un peu passe. Au bout d'un mois, je prends un petit café, j'avoue, avec une petite cigarette, et là, je vois Ludo, et qui me dit, ah, tu veux pas, tester, la musique?
Donc, Ludo qui vient de t'accompagner, là, hein, qui est avec nous dans le studio.
Exactement. Voilà. Et je lui dis, moi, mais non, mais n'importe quoi, t'as vu le niveau que t'as, toi, et tout, impossible. Bref, c'était la pression, et en fait, c'est la première fois de ma vie, que j'ai réussi à chanter, et ça a été dès le premier instant. Je me souviens, c'était Coup de Soleil qu'on avait repris, c'était au piano, et c'est la première fois de ma vie.
Le Coup de Soleil de Cochin, c'est ça?
Ouais.
Incroyable. Ok. Et donc, ça, c'était, donc, quand t'arrives dans la coloc, il y a combien de temps?
En juillet, c'était
genre, il y a un an et demi.
Ouais, c'est ça.
Incroyable.
Ouais.
T'avais jamais chanté de ta vie. Et là, tu nous fais des lives.
Juste, le lien avec la cigarette, du coup, je comprends pas. Il était dans la coloc ou tu l'as rencontré dans un resto?
Oui,
enfin,
oui, pardon, c'est mon coloc.
Ah, voilà.
Ludo, voilà, il se coloc. Elle arrive dans cette coloc et comme par hasard, elle tombe sur un Zikos de fou.
Ouais, en plus,
trop sympa. Voilà.
Trop fort.
Bah oui, trop fort.
Du coup, tu chantes et là, t'as une évidence.
Ben là, en fait, c'est même plus qu'une évidence. Ça veut dire que avec Ludo, on a une relation, on parle, mais on est pudique. Et en fait, finalement, par la musique, on communique. On se dit des choses que jamais on s'est dit sans forcément mettre des mots dessus, mais on a une connexion qui est juste exceptionnelle. Et ce qui est ouf, c'est que par la musique, j'ai rencontré des personnes. C'est du coup de foudre amical, même plus. C'est des personnes où c'était fou dès le début. Et Ludo, ça a été juste incroyable. Enfin, du moment où on a commencé, on n'a pas arrêté. Et en fait, on a commencé par faire des reprises, des covers. Et puis en fait, du coup, donc fin d'année dernière, truc, je décide de monter ma boîte parce que j'étais encore un peu dans le déni de voilà, moi je veux être une entrepreneuse qui gagne beaucoup d'argent et je veux faire des podcasts sur du business. Et en fait, il se trouve que ça marche pas, que mon corps il suit pas, je pète un peu un plomb, un burn-out. Et en fait, à chaque fois que je dis non mais je peux pas faire de la musique, c'est trop loin de ce dans quoi j'ai grandi. Alors déjà, être entrepreneuse, c'était touchy, mais alors chanteuse, genre ouais, j'ai vraiment choisi une vie où là c'est sûr tout le monde va me rejeter quoi. Et donc et en fait,
c'est
à chaque
fois, hein, de se dire ça.
Ah ouais, et à chaque fois que je disais ça, bim, otite, j'avais des problèmes aux yeux, j'ai été hyper malade et tout. Et en fait, le problème, c'est que ça a impacté la musique. Et donc, en fait, j'étais confrontée viscéralement à moi, je suis pas heureuse si je fais pas de musique. Mais en même temps, je peux plus en faire. Donc là, j'ai décidé de tout arrêter. Et ce qui est ouf, c'est que en décembre, du coup, 2024, je prier l'univers en disant je n'arriverai jamais à me sortir de cette situation de boîte, et en fait je veux plus faire ça, sauf que en fait les gens ont pris le risque un peu de croire en moi, ma famille, ils se sont dit bon tu veux faire ça, bon bah ok, on croit en toi, fais voir ce que tu fais. Et en fait j'étais pas du tout heureuse et je me dis je peux pas échouer.
Donc, ma peur de décevoir encore,
ouais, et puis ma vie, moi je m'étais construite, moi ce qui me tenait jusqu'à présent c'était un jour je réussirai, je ferai de l'argent et je vais leur montrer que en fait je peux y arriver. Et là pour moi c'était le pire échec de ma vie, et je me disais ouais, je peux pas assumer ça. Et en fait finalement ça s'est arrêté parce que physiquement je pouvais plus. Et là s'en suit une incompréhension de ma famille aussi, où voilà, eux ce qu'ils voulaient c'est que je demande pardon à Dieu pour tout. Moi je voyais pas en quoi je devais dire pardon à Dieu. Et en fait là s'en est suivi un cheminement profond. Maintenant, qu'est-ce que je veux? En fait, il va falloir que j'assume ce que je veux. J'ai pas à dire pardon à Dieu. J'ai pas à me repentir. Je suis pas le genre de personne à 50 ans qui rêve encore sa vie et qui prétend avoir des contacts, je sais pas où, et qui fait semblant de rêver sa vie, mais il se passe rien. Moi, j'ai des vraies convictions. Ça arrive d'échouer, c'est pas grave. Et en fait, je refuse maintenant qu'on me dise ça. Donc il y a ce refus là, mais ça me fait quand même souffrir et je me dis ok, là maintenant je vais me lancer dans la musique pour de vrai. Et on a commencé à composer du coup avec Ludo des musiques. Et moi j'avais jamais fait ça de ma vie et franchement c'est
Donc Ludo, en fait toute cette année 2025 qui s'est écoulée, tout s'accélère de façon complètement incroyable. Du coup à partir du moment où tu prends cette décision ferme, donc il y a eu plusieurs concerts en à la Maz là à Paris. Les pick-up à Épinay, tu seras donc au 34 à Paris aussi le 3 février, donc dans un petit peu moins d'un mois. Alors c'est quoi là les projets là pour cette année là?
Les projets du coup pour cette année, donc du coup en fin février on a aussi une date à la Servangari. Le projet donc on est accompagné par LPE, donc du coup on va sortir l'album. Donc il y a déjà des dates de sortie notamment pour mars, pour mai, et le but c'est de faire une release party à la fin de l'année. On est soutenu du coup par la ville d'Épinay-sur-Seine. On est en train d'échanger avec le PMO, donc il y a pas mal de structures qui
m'écoutent. Le PMO, c'est quoi le PMO?
C'est le centre de musique de Orgemont.
D'accord.
Et pôle musical d'Orgemont, incroyable.
Ça. Et donc du coup, c'est assez ouf parce que jamais de ma vie j'aurais pu envisager qu'on s'intéresse à ce que je dis.
Quelques mois, quoi. T'as réussi à créer un truc.
Mais je pense que en fait, s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment les rencontres qu'on fait. Et je pensais pas un jour de ma vie avoir la chance de pouvoir rencontrer des personnes comme ça. J'ai parlé de Ludo qui a totalement transformé ma vie, mais il y a aussi eu Mathieu. Mathieu, pour quand j'ai enregistré Le Jour se lève, c'est la première fois que je le rencontrais. Et en fait, au-delà de ce que je disais, il a compris et il a cru en moi. Et il a vu des choses que peu de personnes avaient vues et il est d'un soutien. Celui qui a enregistré, mixé, masterisé le son et qui fait les arrangements aussi. Du coup, il m'accompagne professionnellement.
Mais parce que je pense qu'en fait, ce que Mathieu voit, mais c'est aussi ce que nous on voit. En fait, hein, Janet, c'est que t'as cette force incroyable de toujours t'interroger sur le pourquoi de ce que tu vis et donc de donner un sens en fait et de réussir à le transcender. Hein, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire.
Et alors du coup, moi ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que tu dis ce que tu incarnes. C'est-à-dire que tu as dit, voilà, il faut que je prenne du temps pour moi, tu es partie. On va dire à l'autre bout de la France, hein, si j'exagère.
Ce que tu dis.
Et tu incarnes ce que tu dis parce que tu as pris du temps pour toi, tu t'es retrouvée. Et finalement, comme tu le disais, en fait, on attire ce qu'on reflète en fait au monde. Et depuis que tu t'es choisi toi, que tu as choisi la lumière, et ben finalement toutes ces petites personnes qui viennent graviter autour, et bien elles renvoient cette lumière que tu dégages. Et alors Ludovic qui t'accompagne, Ludovic Malville hein, qui est donc pianiste, guitariste, compositeur avec qui tu travailles.
Chanteur
aussi,
il est trop fort.
Donc vous écrivez, comment ça se passe au niveau de tout ce métier en fait de chanteuse que tu vis aujourd'hui? Est-ce qu'il écrit, tu écris, vous composez ensemble, comment ça se passe?
Ça c'est fou parce que du coup généralement les sessions c'est on se dit on compose, Ludo fait des trucs de ouf à la guitare et soit du coup j'ai déjà des textes et on le met, par exemple Décimé, celle qu'on a faite juste avant, c'était j'avais un texte, il a fait un truc de ouf à la guitare, ça a été en une fois. On a pondu le truc.
En fait, c'est la nouvelle Céline Dion avec Titanic, hein, c'est ça? C'est une fois. Mais voyons grand. Moi, je vois grand.
En fait, on diffuse juste la maquette déjà. Voilà. La maquette est déjà prête à...
C'est ça. Merci en tout cas beaucoup, Janet. Et alors, du coup, vous allez nous jouer un dernier morceau en live. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est hyper important. Je l'ai composé au début d'année. C'est une lettre que j'ai écrite à la petite moi pour justement me choisir et réussir à faire de la musique. Et du coup, c'est juste que j'ai choisi la lumière et que j'ai décidé d'aller la chercher parce que c'est bon, maintenant elle est en sécurité, quoi.
Super. Voilà. Ça prend écho avec tout ce qu'on vient de dire, la petite moi.
Petite moi.
On écoute ça, c'est parti.
Très bien. Refuse encore de voir. Maman.
sens ton cœur battre la peur. Je sais ce choix t'arrache le cœur. Il te paraît insurmontable. Un jour je serai grande, farte et souveraine. Ma voix percera l'ombre de tes chaînes. J'écrirai ta loi dans le vent, indépendante, fière. Je porterai ta voix comme un étendard dans les tempêtes et les silences et les départs. Je hurlerai ta voix, le monde l'écoutera. Je soulèverai ce poids, regarde-moi, petite moi, lève-toi. De leur chaos, tu porteras le poids de leurs idéaux. Tu incarneras ce qu'ils refusent de voir, le manque, la honte, l'abandon et la rage. Les coups d'eau transperceront ton dos si pur, impureté que tu ne laisseras pas gagner. Je t'en prie, écoute-moi, car le temps m'échappe. Ce qui t'aidera marche dans tes pas. J'ai traversé la nuit pour qu'un jour tu puisses toucher la lumière, essuyer la guerre, combattu les ténèbres, hurler dans le désert. Élève ta voix. Un jour je serai grande, farte et souveraine. Percera l'ombre de tes chaînes. J'écrirai ta loi dans le vent, indépendante, fière. En avançant, je porterai ta voix comme un étendard dans les tempêtes et les silences. Je porterai ta voix, le monde l'écoutera. Je soulèverai ce poids.
Encore une chanson en direct incroyable. On a même pas envie que ça s'arrête, en fait. On a envie d'écouter le concert. Alors, on est de retour, bien sûr, sur IDFM Radio, la radio qui met en avant aussi des talents comme toi, Jeannette. Et bien sûr, dans l'émission Femmes en Lumière. Toi, Jeannette, on le rappelle, hein, auteur-interprète, tu vas te prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Jeannette, est-ce que tu es prête?
Totalement.
Totalement pas, coulisses. En fait. Alors, quelle est la chanson qui te ressemble le plus quand personne ne t'écoute?
Waouh. Ok. J'arrive. Oh là là.
T'as le droit de prendre quelques.
Il y en a tellement.
Il y en a tellement.
Voilà. Ok. Bah, tout dépend si j'ai besoin d'avoir de la force.
Non, celle qui te ressemble le plus.
Ah, ce qui me ressemble le plus.
Ouais.
Oula.
Qui illustre un peu toi, ton parcours.
Ouais.
Qui
au-delà de l'humeur, juste.
Je sais pas. Il y a par exemple une musique de Kate Bush qui m'avait
Bush.
Ouh là, pardon.
Bush, sûrement hein, quoi,
c'est pas Bush. Non,
Bush.
Non,
c'est pas toi qui as raison, mais oui, aucun.
Et c'est quoi la chanson du coup, tu
C'est les hauts du hurlevent en anglais, c'est ouais, je suis une grosse qui chante en anglais.
C'est ils en ont fait la BO de Stranger Things là.
Ouais, alors celle-là, c'est pas celle-là,
c'est Running Up That Hill, c'est pas celle-là?
Non.
Non,
c'est, bon. Ok, bah, trop
en
nul.
En tout cas, c'est lui.
Super nul pour
okay. D'accord.
Mais en tout cas, c'est cette chanson qui, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, peut-être qu'ils connaissent.
Ouais.
Et du coup, elle te. Et pourquoi elle te ressemble?
C'est plutôt l'émotion. En vrai, je suis toujours très touchée par les émotions. Après, il y avait aussi la musique d'Isolt qu'elle avait pu faire encore, qui m'avait un peu bouleversée également. Je pense que je suis touchée par les textes, mais aussi par l'intention que ces chanteurs peuvent mettre. Et je suis une grosse sensible, donc j'avoue que c'est plutôt des trucs tristes, généralement.
Et alors, si on parle d'émotion, si ta voix était une couleur, ce serait laquelle ?
Je dirais qu'il y en aurait deux.
Ouais.
J'ai le droit.
Oui, t'as le droit.
T'as tous les droits.
Trop bien. Je dirais bleu et rouge. Rouge... parce que c'est un peu ce qui image mes textes aussi, c'est le feu qui sort parce que ça a besoin de sortir et l'eau qui apaise et finalement ça se transforme en quelque chose de lumineux, donc je dirais bleu et
le
rouge.
Le bleu pour l'eau et le rouge pour le feu.
Ouais.
Wow, c'est beau, quelle image. Ok. Et alors, donc Janet, troisième question spotlight, attention. À quel moment as-tu compris que chanter n'était plus un choix mais une nécessité?
Dès la première seconde avec Ludo.
Voilà. Là, je te dis même pas le sourire de fierté. Là, il n'en peut plus. Ok. Alors, si tu pouvais glisser un secret dans l'oreille de ton public, ça serait lequel?
Un secret, c'est un truc qui te va prendre sur moi ou un conseil?
Comme
secret
tu veux. C'est toi qui choisis.
Je dirais plutôt un conseil. Qui peut être secret, mais
que tu pourrais dévoiler juste pour nous, parce que c'est ça la question.
Sinon, désolée. Je dirais que il faut, même quand on a l'impression de plus avoir espoir, il faut se forcer à en avoir, parce que moi, jamais de ma vie, j'aurais cru un jour pouvoir faire tout ça. C'était vraiment inenvisageable. Et si la petite fille savait, elle serait genre juste folle. Et que je pense qu'il faut croire en soi, se donner les moyens, parce que la vie peut être belle même quand tout s'écroule, et qu'il y a toujours une raison pour tout. Il faut s'écouter et croire en soi, parce que personne nous sauvera.
Oui, et puis chercher à comprendre aussi, c'est ce que tu disais. C'est ça qui sauve aussi. C'est on vit ce qu'on vit, on traverse ce qu'on traverse, les galères. Et si on arrive à se poser cette question, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça veut m'enseigner? Et c'est là où tout d'un coup, il y a possibilité d'éclairage et de poser de la lumière, quoi.
Ouais, d'allier les choses.
Allez, dernière question spotlight.
Ok.
Si ta voix pouvait signer une pétition, quelle cause porterait-elle en premier?
Dur, hein?
C'est trop dur, ces questions, c'est ça.
Moi, évidemment, mon projet tourne autour des sujets liés à l'oppression, mais ce serait l'humanisme, parce que, en tant qu'humain, l'injustice, vraiment tous les sujets, il y a des droits, et je pense que c'est ce combat-là, moi, que je veux mener.
Les droits humains.
C'est qu'on soit un homme, une femme, qu'importe, en fait, il y a des droits, il y a de l'injustice, c'est juste pas possible, et moi, c'est ce chemin-là que je prends.
Super. Okay. Merci beaucoup en tout cas, Janet, pour toutes ces réponses belles d'espoir et d'humanité. Merci d'avoir joué le jeu à notre interview Spotlight. Notre émission touche à sa fin. Et avant de la clôturer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es en 2026?
plein de choses si vous voulez. Plein de concerts et je trouve ça trop stylé là ce qu'on est en train de vivre avec Ludo, Mathieu, Mathias. Je nous souhaite de réussir tous ensemble et tout casser.
Ouais,
parce qu'on est trop badass.
Moi j'ai envie de dire trop badass. Et tu nous as confié un petit secret. Alors moi je vais le dire à l'antenne, parce que ça se trouve on sera en exclusivité. Moi ce que je te souhaite, Janet, avec toute ton équipe, c'est l'Olympia dans 3 ans. C'est dit, c'est acté, c'est signé.
Super. Merci infiniment, Janet, pour ce partage plein d'émotions, de sincérité, de générosité. On démarre vraiment l'année sur les chapeaux de roue. On te souhaite le meilleur pour la suite, une merveilleuse année à toi. Bien sûr, un merveilleux album, premier album. Notre émission se termine. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
super année 2026. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain, de 18h à 19h, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pourrez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site didfmradio.fr, bien sûr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci, Janet, Ludo.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
À bientôt.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez à Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuites destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val-d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Quand la nuit tombe et que le silence s'installe, ouvrez grand vos oreilles. Chaque lundi, de minuit à 1h, IDFM Radio vous embarque dans les récits du soir. Les récits du soir. Des histoires pour apprendre, pour rêver, pour voyager loin, très loin. Pour les grands, pour les petits, mais surtout pour les curieux et les aventuriers de l'imaginaire. Alors, laissez-vous porter et entrez dans l'univers fascinant des récits du soir. Récits du soir. Tous les lundis, de minuit à 1h, sur IDFM Radio.
Les récits du soir.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sortie.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.